11h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1. Hier, elle a eu tellement chaud qu'elle est partie se rafraîchir dans un sauna, la réfugiée climatique Léa Landeau.
Bonjour.
Il est en colère contre l'augmentation du sans-plomb 95 alors qu'on débute tout juste la saison des barbecues, le roi de la merguez carbonisée, Jean-Philippe Bizzini.
Bonjour les amis, bonjour à tous.
Hier, il faisait tellement beau qu'il a réussi à bronzer alors qu'il était au cinéma, l'homme de l'ombre, Ben H.
C'est ça, bonjour Anne, bonjour tout le monde.
On a perdu 15 degrés depuis hier, il ne sait plus où il en est, il va devoir s'acheter une doudoune sans manches, François Guédon.
Doudoune et bikini.
Et celle qui a passé son dimanche à bronzer dans le jardin de Jean-Philippe Bizzini, les voisins n'en revenaient pas, ils n'avaient jamais vu Jean-Philippe aussi proche d'un mannequin.
C'est vrai.
Anne Romanoff.
Ouais.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Bizzini nous racontera son retour de week-end dans les bouchons. À 11h30, nous recevrons Stéphane Corbin et Virginie Lemoine pour le spectacle des Funambules à l'Alhambra à Paris du 6 au 9 juin, spectacle contre l'homophobie. Ben H nous parlera de l'amour au cœur de ce spectacle.
Et, oui.
Et à partir de 11h50, l'écrivain académicien Jean-Marie Rouard sera notre invité pour son dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson qui vient de paraître aux éditions Plomb. François Guédon nous rappellera le rôle d'un académicien et Léa Landeau fera une interview guide du Rouard à notre invité.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
En ce retour de week-end ensoleillé de 4 jours, je voudrais avoir une pensée pour une personne aux cheveux blancs, victime de la chaleur, Laurent Wauquiez.
Rest in peace.
Laurent Wauquiez, qu'on pourrait appeler le Manuel Valls de la droite si Valls avait été de gauche, a annoncé hier qu'il quittait la présidence de son parti pour prendre du recul. Il y a 8 jours, ce sont des électeurs qui ont pris du recul. Quand les électeurs reculent, comment veux-tu que ton score ne soit pas nul? À quoi pensiez-vous? Prendre du recul, c'est laisser passer du temps pour mieux comprendre certaines choses. Par exemple, dans un couple, quand tu dis « on a pris du recul », ça veut dire « elle m'a quitté ». Quand on dit à un ami « tu devrais prendre du recul », ça veut dire « calme-toi ». Le soleil est revenu et c'est la saison des barbecues. Hier, notre fine équipe a été invitée à un barbecue chez Jean-Philippe Bizzini, d'où notre état un peu pâteux ce matin. Hein, le mélange rosé, merguez, chips, salade, rosé, glace, salade de fruits, vin rouge, il n'y avait rien à manger. Plus le soleil. Je ne veux pas dénoncer, mais certains en ont profité plus que d'autres. Hein. Du rosé, n'est-ce pas, Léa Landeau.
On sent encore les vapeurs.
Et Ben H qui avait apporté ses petites cigarettes parfumées. Il faut dire que le barbecue de 2019 n'a plus rien à voir avec le barbecue de 1989. En 89, pour allumer un barbecue, il fallait pratiquement déclencher un feu de forêt. T'avais le maître de maison qui s'avançait, la bouteille d'alcool à brûler à la main, prêt à arroser le charbon de bois avec une dextérité acquise après des années à tenter de viser le trou de la cuvette. Et c'est vrai que longtemps, on a eu l'impression que c'était indispensable d'avoir un pénis pour allumer un barbecue. C'est peut-être une histoire de compassion masculine envers les merguez et les saucisses, mais clairement, un des derniers bastions de virilité de l'homme du XXe siècle, c'était le barbecue.
C'est vrai.
Aujourd'hui, en 2019, le mâle alpha demande « Chérie, t'aurais pas du papier journal ?» Sa partenaire lui répond « Bah non, on lit tout sur la tablette. » Donc à ce propos, je vous déconseille de lancer un iPad dans un barbecue pour l'allumer. C'est pas rentable. En 2019, il y a aussi les amateurs de barbecue nature et découverte. « Ouais, moi, pour allumer les braises, j'utilise des boules de paille ramassées à la main et trempées dans de la résine de purin d'ortie. Si le soleil est à son zénith et que la conjonction des planètes est favorable, le feu part en moins de 2 heures. » Puis arrive le moment du choix des grillades. En 1989, c'était « Qui veut des côtelettes cramées ? Qui préfère des merguez brûlées ?» En 2019, c'est plus compliqué. « T'aurais pas un steak de soja ? Parce que je suis végane, je mange pas de viande. » Non mais t'inquiète, c'est pas de la viande, c'est du brûlé. Dire qu'on est végétarien dans un barbecue, c'est comme dire « Laurent Wauquiez a beaucoup de charisme dans une réunion des Républicains. » Ou dire « Je me réserve pour le mariage dans une boîte échangiste. » Bon, c'est possible, mais ça peut casser l'ambiance. Alors t'as aussi des gens qui disent « Ouais, j'ai de la salade de tomates avec des œufs. T'aimes ça la salade ?» Non, puis moi je mange pas d'œufs parce que j'évite tout ce qui est issu de l'exploitation animale. Oui, mais les œufs, c'est pas issu de l'exploitation animale, c'est issu de l'exploitation agricole. Et au fait, qu'est-ce que t'as comme pain? Parce que je suis allergique au gluten. Est-ce que tu peux bien cuire les côtelettes? Pourquoi, t'es enceinte? Non, je suis casse-couille. Eh oui, la France de 2019, c'est une France où tout le monde est bien content d'être ensemble, sauf Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez n'aime pas trop les barbecues, c'est normal, parce qu'en ce moment, il est un peu grillé.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Hier, Laurent Wauquiez a annoncé sa démission pour prendre du recul sur la défaite de LR aux européennes. Nicolas Sarkozy aurait déclaré « Poussez-vous de là les losers, j'arrive !»
Hier, Laurent Wauquiez a annoncé sa démission.
Oh, pas sûr qu'il laisse un grand souvenir chez les Républicains.
Qui ça?
Dans son allocution, Laurent Wauquiez justifie sa démission en disant qu'il veut prendre ses responsabilités dans la défaite de les Républicains aux élections. Moi, je suis choquée. Hein. Si on m'avait dit un jour que Laurent Wauquiez aurait un point commun avec Jospin, je l'aurais pas cru.
Laurent Wauquiez justifie sa démission en disant qu'il veut prendre ses responsabilités dans la défaite des Républicains aux élections. Ah d'accord, donc partir, c'est prendre ses responsabilités. Eh ben, je réalise qu'en fait, j'ai souvent pris mes responsabilités avec mes actions.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour le vélo. Alors, vous savez quel est le point commun entre un vélo et ma relation avec mon banquier ?
Non.
Depuis quelques temps, les deux sont électriques.
Hier, c'était la journée mondiale des communications sociales.
Quoi ? Ça veut dire quoi, communication sociale ?
Ça veut dire barbecue.
Laetitia Hallyday demande la nationalité américaine. Hein. Faites pas les surpris, Johnny nous avait tous prévenus. On a tous quelque chose en nous de Tennessee.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec François Guédon, Jean-Philippe Vizini, Ben Hachel, Ando et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Azur Eva d'une semaine pour 4 personnes en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Ben H, François Guédon. Alors Léa Landau, vous avez bronzé à ce barbecue, c'est incroyable.
Oui, je sais, mais il faisait un temps incroyable, à croire que Jean-Philippe avait commandé même le soleil pour nous.
Hein. Mais il fait beau comme ça tous les jours chez moi.
Hein. Ouais. Alors c'était pas trop dur de tout ranger, Jean-Philippe?
Eh bien, on vous attend aujourd'hui.
Vous avez tout nettoyé
tout
hier soir ou vous avez...
Tout rangé.
Tout
oui,
rangé,
toi ou Karine, ta femme?
Alors, qu'est-ce que tu veux? La version officielle?
Oui, la vraie version. Qui a fait quoi?
J'ai beaucoup aidé.
C'est vrai?
J'ai rangé le rhum.
Bon, c'est le moment de notre jeu qui s'intitule comment, Ben H?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué ce long week-end de l'Ascension.
Très long.
Cette semaine, Azur Eva, spécialiste des séjours en village et résidence de vacances, vous offre votre séjour d'une semaine, 8 jours, 7 nuits, pour 4 personnes. Au cœur des plus belles régions de France, venez découvrir nos sites labellisés famille, nature, gourmand, festif, sport, bien-être ou sexuel. Non, ça, c'est moi qui l'invente.
Je me disais bien, il manque une touche.
Il y aura toujours une activité faite pour vous et que vous soyez adepte des destinations mer, océan, montagne ou campagne, vous trouverez des formules adaptées à vos envies. Plus d'infos sur azureva-vacances.com. Et on joue d'abord avec Patricia. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Bonjour Patricia.
Bonjour Patricia, vous avez 35 ans, vous travaillez dans les ressources humaines à Houille.
Oui,
78.
C'est pas loin de chez moi.
Bah ouais, vous êtes célibataire et vous cherchez un homme brun, ténébreux, mature.
Bah c'est moi.
Bah ouais.
brun, c'est bon. Ténébreux. Ça, c'est selon les.
Oui, mais mature
aussi, c'est selon.
Elle avait mature.
Oui.
J'ai pas entendu.
C'est quoi mature, Patricia, pour
c'est
vous?
C'est pas moi.
Qui a envie de se poser, mais en même temps qui sait s'amuser. Enfin,
bah ça, voilà, c'est moi.
Quelqu'un qui aime la vie.
Mais t'es déjà posé, toi.
Bah on peut se poser, se reposer, on se repose.
J'aimerais quelqu'un qui a confiance en soi, parce que moi, je parle avec beaucoup de personnes, en fait, et donc des fois, ça pose problème en termes de jalousie. Je me dis, bon, peut-être quelqu'un plus mature.
Ah, vous avez beaucoup de copains et
est-ce que vous gardez vos vêtements quand vous parlez avec eux? Parce que ça joue. Hein. Ça peut influer.
Des fois, c'est ramalant. Entendu, mais je garde mes vêtements. Ça...
Et vous utilisez les applis de rencontre, Patricia?
Ça fait un mois.
Bah attends.
Bah, ça
non,
va.
Mais j'avais déjà essayé, mais en fait, ça me.
C'est pas votre truc.
Moi, j'ai découvert ce week-end que ma copine, elle avait toujours Tinder, alors que ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Je me suis dit, mais pourquoi tu la gardes? Oh, au cas où, tu vois.
Non, c'est vrai.
Ouais, ça donne vachement de certitude. Je suis très en confiance.
Elle t'a dit ça, au cas où?
Ouais, elle a dit au cas où.
Mais elle peut le désactiver temporairement, non?
Bah, j'espère que c'est ce qu'elle fait. Ou alors, ce week-end, elle n'était pas du tout en tournée, je sais pas.
Parce que moi, j'ai rendez-vous avec elle ce week-end. Donc,
Bon, Patricia, vous jouez avec Keki? Oh là.
Kiki.
Le Kiki de tous
c'est
les
Kiki qui joue.
Léa.
Avec Léa, et prenez quelle liste? La liste 1, la liste 2?
Allez, la numéro 1.
La 1.
Top chrono.
Le présentateur de The Voice.
Nico,
oui, oui, c'est ça. Lui, c'était le goal dans les, de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde.
Martez.
Non.
Lloris.
Oui. Lui, c'est un chanteur avec une perruque au piano. Rocketman, c'est son biopic qui vient de sortir.
Ah, Elton John.
Oui. Lui, c'est le mec de Julie Gayet, ex-président de la
France.
Oui. Elle, c'est la femme de Sarkozy.
Clara Bruni.
Oui, c'est ça. Elle, c'est une chanteuse qui avait fait Disney, qui est la nièce de Dolly Parton, qui chante Jolene, qui a fait une jolie reprise, qui était sur une boule.
Pas.
Ok, c'est pas grave. Lui, c'est le. Oui.
Ouais. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses.
La seule
réponse.
Chose qu'elle a retenue, c'est qu'elle était sur une boule.
Non, parce que ouais, ce clip sérieux, est
je
tellement...
vois pas du tout, je vois pas du tout. À poil sur une boule. Ah oui.
Et puis ouais, je connaissais la pas preuve. Clara Bruni, mais oui, c'est la sœur jumelle de Carla.
Qui sort de chez Jean-Louis David.
Bon, 6, c'est pas mal, Patricia.
On va voir comment se débrouille Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour Anne, bonjour équipe.
Bonjour.
Alexandre, vous avez 33 ans, vous êtes vendeur dans un magasin de bricolage à Étoile-sur-Rhône dans le 26.
Vous savez qu'on appelle Ben H le tournevis.
Vous êtes à quel rayon Alexandre?
Au rayon quincaillerie, boulon, visserie.
Vous faites partie des vendeurs qu'on cherche et qu'on ne trouve jamais.
C'est ça.
Si on me demande, je suis là Anne quand même.
C'est vrai? Parce que moi, j'arrive pas avec les.
Jamais.
Genre, elle va dans les magasins de bricolage.
Oui,
déjà.
Bien sûr.
Ah oui.
Bah, évidemment.
Mais tu t'imagines que la vie d'Anne Romanoff, c'est pas la reine d'Angleterre.
Non, mais je l'imagine pas être manuelle.
Si.
Quand elle va chez Castro, elle arrive en jet privé. Ça, c'est juste un détail, mais elle y va quand même.
Vous écoutez l'émission en podcast?
Ah oui, l'émission, j'écoute en direct, mais j'ai pas trop le temps là, quand je suis au magasin, bien sûr. Donc, ouais. Podcast, tout à fait, ouais, podcast.
Vous aimez qui comme chroniqueur?
Eh bien, Ben H.
Mais c'est un homme de goût, décidément.
Vous allez jouer avec qui alors?
Je vais jouer avec Ben H aussi.
Allez, voilà. Allez, avec le tournevis.
Alors, attention, hein, 6 bonnes réponses, donc c'est pas. Il faut quand même vous donner là.
Ouais.
Pour faire 7 et partir.
Oui.
Vous êtes prêts?
Oui.
Top chrono.
C'est l'ancien Premier ministre socialiste de la France, enfin socialiste sous François Hollande.
Ah bon ?
Il était en Espagne, il est parti en Espagne, se présentait à la mairie de Barcelone.
Valls.
Ouais. C'est une télé-réalité, elle a pas de shampoing, il y a ses cheveux, elle donne des coups de couteau à son copain. Ouais, c'est ça. C'est une cuisinière qui faisait des émissions de cuisine. Oh la bonne mère.
Maïté.
Ouais, c'est ça. C'est une grande chanteuse à voix qui a 9 octaves, 7 octaves, une grande chanteuse américaine. Avec une grosse.
Marie Carré.
Non, ouais, c'est ça. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur de François Hollande.
Putain,
Colomb. Non, c'est un chanteur roux anglais, gros succès cette année. Il a vendu plein de disques.
Oh là là.
Je me suis perdu.
C'était pas mal.
C'est pas mal.
Indiana Jones.
C'est Bernard Cazeneuve que vous n'aviez pas trouvé.
T'aurais pu dire boîte de nuit.
Ah, c'était Cazeneuve, ah ouais. Ah oui, c'est vrai, je me souviens.
Non, c'est Castaner, la boîte de nuit en plus. Aucun rapport.
Bernard Cazeneuve.
Je suis désolé.
Et Ed Sheeran.
Ed Sheeran.
Shape of You.
Ouais. Ça fait 4 points.
J'étais pas loin du coup.
Si, quand même. 4 à 6, c'est un petit peu loin, Alexandre.
6, 4, il a fini deuxième, hein, c'est pas mal.
Deuxième sur deux. Non, mais Alexandre, comme vous êtes sympathique, on vous autorise à rejouer, mais dépêchez-vous parce que les.
Il a eu une réaction de tennisman français, il prend 6-4 et il fait oh, c'était pas trop mal.
Patricia, bravo.
Oui, c'est cool. Merci.
Oh non, mais attendez.
Ah non. Voilà, allez, hop, on lui enlève le.
Non.
Patricia, j'aimerais quand même un cri de joie, s'il vous plaît.
Ouais.
Allez.
Ouais, merci, c'est génial.
Grâce à Azureva, spécialiste des séjours en village et résidences de vacances, vous avez gagné un séjour d'une semaine, 8 jours, 7 nuits pour 4 personnes au cœur des plus belles régions de France. Venez découvrir nos sites labellisés famille, nature, gourmand, festif, sport ou bien-être. Il y aura toujours une activité faite pour vous et que vous soyez adepte des destinations mer, océan, montagne ou campagne. Vous trouverez des formules adaptées à vos envies.
Ouais.
Plus d'infos sur azureva-vacances.com.
Azureva-vacances.com.
En tout cas, profitez bien de ce séjour, tous les deux. On vous embrasse.
Avec plaisir. Au revoir.
Pour jouer avec nous, si vous voulez partir seul ou ensemble, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, François Guédon, Ben H et Jean-Philippe Bizini qui nous racontera son retour de week-end.
Oh là là.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Lalando, Ben H, François Guédon, dit le glouton.
Le gourmand, pas le glouton.
Pac-Man.
Le gourmet, quand tu t'enfiles.
J'ai dit gourmand.
Il y avait des toasts avec de la mozzarella fondue, du pesto. Et je les ai regardés. J'ai réussi à pas en manger. Et ton fils, il arrêtait pas de m'en proposer.
Ça, c'est vrai.
Alors qu'avec François, pas besoin de proposer. Il a mangé le plat d'un coup. Je prends des initiatives culinaires.
Tu le payes un peu ton fils parce qu'il a fait le service toute l'après-midi.
Ah,
quand même.
Il est très corporate.
Ah ouais.
Il est poli.
Il est très poli.
Il est beau.
À force de taper dessus.
Non mais il est beau cet enfant.
Ouais, c'est tout son père.
Non, il ressemble beaucoup à sa mère.
Ça me flatte aussi. C'est bien.
Non, mais il te ressemble aussi, sûrement.
Quand j'étais petit, on se ressemblait.
Ah ouais,
ouais. C'est après que je suis devenu
il
comme
va
ça.
Vieillir, alors.
Et quand j'étais petit, j'étais beau.
Mais t'es toujours beau.
C'est exactement ça que je voulais que vous entendiez dire.
Moi, j'aimerais bien aller chez Jean-Philippe tous les week-ends. Il a une cave exceptionnelle.
Bah là, elle est vide, sa cave.
Voilà, ouais, c'est vrai que
passage de François Guédon. C'est un peu comme après un ouragan. J'attends les experts de l'assurance qui viennent faire un peu l'état des lieux pour voir si je suis indemnisé ou pas. Quoi, tu vois.
Puis alors, il a fait des trucs incroyables. Il fait cuire des bananes au barbecue.
Ouais, flambées au rhum.
Ouais. J'aime bien ça.
Alors, c'est une bouteille de rhum par banane. Hein, c'est ça.
Bon, alors, comment s'est passé ce week-end de 4 jours? Vous en avez profité, Ben H?
Ah bah oui, j'en ai bien profité. Ouais, bah, surtout hier, on a parlé chez Jean-Philippe. Super barbecue, on a passé la journée au soleil, mais j'avais pas mis de crème solaire. Du coup, cette nuit, à chaque fois que ma copine me touchait, ça fumait. Je me suis senti comme une merguez sur le barbecue de JP. C'était...
François?
Ah, on a passé un super dimanche. Alors moi, j'ai passé la journée à pousser tout le monde dans la piscine.
Eh oui, c'est vrai, c'était super, sauf que moi, j'ai passé la soirée à nettoyer la piscine parce que François, ce qu'il dit pas, c'est qu'il a passé la journée à pousser les gens dans la piscine, même quand ils étaient en train de manger. Il y avait des saucisses partout dans la piscine. Merci, François.
Jean-Philippe Vizini, ce week-end, vous êtes tombé dans les bouchons du pont de l'Ascension.
Oh, m'en parlez pas.
Non, t'en parles pas.
C'est ma femme. C'est ce week-end, samedi. Ma femme, elle a insisté pour qu'on parte voir la mer en Normandie. Du coup, on s'est retrouvés comme des gagnants dans les bouchons du retour du week-end, là. On prend l'autoroute, on fait 200 bornes, on tombe en panne. On se retrouve avec ma femme et les gosses sur le bord de la route avec nos gilets jaunes sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme ma fille, elle fait de la guitare, elle a les cheveux longs, les gens, ils s'arrêtaient, ils la prenaient pour Francis Lalanne. Ma femme qui panique, elle était là. Ah, tu sais que sur le bord de l'autoroute, on a une espérance de vie de 10 minutes. J'appelle le dépanneur, il me dit, vous inquiétez pas, je serai là dans un quart d'heure. Je dis, mais vous pouvez pas arriver plus vite. Il me dit, non, depuis que c'est limité à 80, il me reste plus qu'un point sur mon permis. Merci Edouard Philippe. Alors une fois la voiture réparée, on arrive dans les bouchons au péage. C'est horrible les bouchons, t'arrives au péage. Déjà il y a plusieurs files, faut choisir sa file. Moi je pue la défaite, dès que je me mets dans une file, c'est les autres qui avancent. Ça vous le fait vous aussi? Du coup je change de file et là c'est les autres qui avancent. Ah! Du coup je fais du surplace, ma femme m'engueule. Ah! Du coup je me dis c'est pas grave, je reste dans sa file, de toute façon ça va, ça vient. Alors une fois que j'ai choisi ma file, pour passer le temps, je joue à un jeu. Je sais pas si vous y jouez aussi, je me choisis toujours un partenaire sur l'autre file que j'appelle l'autre con, voilà. Comme ça devient mon point de repère pour voir si je me fais pas trop carotte sur ma file. Vous y jouez aussi?
Non.
Ah ben ça se trouve, on a déjà joué ensemble alors. Hein. Et quand il est loin, t'es pas bien. Il est où le con? Il est tout là-bas. Alors que quand tu le passes, oh c'est bon ça. Oh là là, je préfère ça que le sexe, moi. Alors, qui m'a dit ça? Alors, et le con, tu sais, il le sent que tu l'as choisi. Hein. T'es, il te regarde d'un petit regard, c'est moi ton con. Alors là, ça y est, c'est la course. On se fait la course. C'est à 2 km/h, hein, on s'en fout. On se fait doubler par les poussettes sur le trottoir, mais nous. Tout d'un coup, ça se resserre, tu sais, dans le bouchon de boue. Tu connais ce moment? Il ne doit en rester qu'un. Tu te dis, c'est pas grave, si vraiment il veut passer en force, je le laisse passer, hein? Eh ben non, je suis con, moi aussi. On est super égoïste en voiture. C'est pour ça qu'en voiture, il nous enferme et il nous attache parce qu'on est des malades. Voilà.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Lalando, François Guédon, Jean-Philippe Vizini, Ben H. Et nos invités Virginie Lemoine et Stéphane Corbin pour le spectacle des Funambules qui aura lieu du 6 au 9 juin à l'Alhambra à Paris. Un spectacle contre l'homophobie.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landauré, François Guédon et nos deux premiers invités qui sont des artistes engagés pour la même cause, la lutte contre l'homophobie. Ensemble, ils viennent nous parler du concert des Funambules, un collectif de 50 artistes réunis pour lutter contre l'homophobie. Ils seront sur la scène de l'Alhambra à Paris du 6 au 9 juin et tous les bénéfices seront reversés à SOS Homophobie, spectacle accompagné par la sortie d'un double album des Funambules. Applaudissements pour Virginie Lemoine et Stéphane Corbin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors expliquez-nous ce spectacle.
À la base, il y a un collectif d'artistes que j'ai créé qui regroupe plus de 400 artistes aujourd'hui. À l'époque des manifestations très violentes qu'il y a eu contre le mariage pour tous en 2013. Et l'idée, c'était de répondre à toute cette violence par de la douceur, de l'amour, de la pédagogie et de l'humour aussi. Et donc on a créé cet album qui a 42 chansons et il y a eu un spectacle qui en a été créé, dont vous avez été la marraine l'année dernière, et je vous en remercie encore vivement. Et voilà, et donc on fait nos dernières dates à l'Alhambra, c'est 50 artistes sur scène chaque soir, qui viennent toutes des plus grandes comédies musicales, donc c'est des voix extraordinaires, et c'est que des chansons originales qui ont été écrites par une vingtaine d'auteurs, j'ai composé les musiques, et elles parlent toutes d'homosexualité, d'amour homosexuel, de destin homosexuel.
Stéphane Corbin, la rencontre avec Virginie Lemoine s'est faite autour d'un projet commun, c'était une comédie musicale
ou... C'était Les Funambules. La toute première fois, c'était Les Funambules. Il y a 6 ans, j'ai appelé Virginie, on ne se connaissait pas. Et je l'ai appelée pour dire un texte qui a été écrit par Alexis Michalik sur l'album. Et elle a dit oui tout de suite alors qu'on ne se connaissait pas. Et là aussi, je te rends honneur parce qu'il n'y a pas tant de vedettes qui ont accepté de participer à cet album parce que c'est compliqué encore aujourd'hui pour les gens connus de s'associer à la cause homosexuelle parce qu'il y a encore des peurs par rapport à la carrière.
Même chez les artistes.
Ah, mais surtout sur les
artistes. Mais il y a tellement d'homosexuels chez les artistes.
Mais il y en a combien qui sont out? Pas tant. Et moi, je peux vous raconter une anecdote. Moi, j'ai été signé en maison de disques il y a quelques années dans une carrière solo quand j'étais jeune et fraîche. C'était encore hier.
Encore pas mal.
Parce que je vis avec un dermatologue. Ça aide beaucoup.
Un dermatologue.
Un dermatologue.
Comment cette journée?
Il vous fait des petits soins gratuits.
Il m'a dit qu'il me laisserait jamais sombrer.
Ah, il me l'a promis. Vous avez des petites injections tous les matins?
Pas encore, mais j'ai des crèmes pour l'instant qui marchent pas mal.
Vous me donnerez l'adresse.
Et donc j'ai été signé en maison de disque il y a une dizaine d'années sur un album solo avec un manager qui était un homosexuel notoire et qui m'avait interdit de m'afficher avec mon mec de l'époque dans la rue ou sur les photos, qui m'avait trouver une petite amie de substitution quand j'allais dans des soirées, dans des représentations, de choses comme ça, et qui m'interdisait de faire la moindre occurrence de mon homosexualité sur scène quand je parlais pendant les concerts. Donc on en était là pour un chanteur qui n'avait aucune notoriété, qu'on n'a toujours pas une énorme, on va pas se mentir. Donc je sais pas ce que ça peut être pour des gens très connus, mais je pense qu'il y a une pression très forte.
Mais là, c'est parce que les filles achètent les disques. Donc...
Ben oui, il paraît que ma cible, il m'avait dit, c'est la jeune fille de 23 ans, un petit peu naïve, qui te trouve très beau. Je ne suis pas persuadé que c'était un bon plan marketing.
C'était peut-être une manière à l'ancienne de voir les choses aussi.
Oui, c'est exactement ça. C'est une manière à l'ancienne de voir les choses.
Vous pensez que ça n'a pas évolué depuis?
Si j'en croise les réactions que j'ai eues sur ce projet, parce que dans des artistes de très renommés, on en a contacté énormément. Mm-hmm. Et il y en a finalement très peu qui ont accepté de participer. Et c'est pour ça que je suis toujours très touché quand quelqu'un comme Anne ou comme Virginie s'engage à nos côtés. Il y en a pas beaucoup qui ont accepté.
Pour ça, vous pensez?
On me l'a dit quelquefois directement.
Ah oui. Ah ouais.
Même quelquefois violemment.
Qu'est-ce qu'on vous a dit? Les noms. Alors, on veut les noms.
J'ai pas donné de nom, mais je peux vous donner j'ai des anecdotes, hélas, hein, qui m'ont fait beaucoup de mal. J'en ai beaucoup, hein, mais j'en ai une particulière là qui me revient. C'est le manager manager homosexuel aussi, d'une artiste très connue qui était la marraine d'une association de lutte contre l'homophobie. Mm-hmm. Donc on est quand même, on est ciblé.
On est bien.
Et ce manager, au bout de 8 mails et 14 coups de fil qui m'avaient été présentés par le président de l'association en question, que je connais bien, m'avait dit « Texto, votre projet est merdique, avec ou sans mon artiste, vous en vendrez pas, hein, arrêtez de me harceler. »
Waouh. Oui, mais là, c'était pas par rapport à l'homosexualité, c'était par rapport aux chansons.
Je sais pas. À l'époque où j'étais en maison de disques, il y a 10 ans, le même manager en question m'avait dit « Bon, comme ça va marcher pour toi, on va te trouver une asso. Alors, t'aimes quoi? Les animaux? Les noirs ?» Mais je vous jure, c'est ça. Hein, c'est vraiment ça. Il y a un cynisme terrible derrière tout ça. Donc, sans remettre en question l'engagement de tel ou tel. Je sais autour de moi qui sont les gens sincères, qui sont les gens engagés. Il y en a d'autres autour de cette table.
Vous êtes au courant, Stéphane Corbin, qu'un artiste ne peut pas non plus répondre oui à toutes les sollicitations.
Absolument.
Moi, je dois avoir une tête de marraine, mais on m'écrit tous les jours pour des maladies que je ne sais même pas qui existent. Et une fois, j'ai même dit ici que j'avais du cholestérol. Il y a une femme qui m'a écrit parce que son mari avait du cholestérol et qu'elle a fait une Mais je ne peux pas.
Il va mieux,
je veux dire, il y a des tas de causes absolument merveilleuses. Enfin,
oui, mais tu peux avoir une manière délicate de refuser un projet.
Vous pouvez dire, la personne qui s'occupe de vous directement peut dire merci beaucoup pour votre sollicitation, j'ai pas le temps, bon courage.
Et moi, c'est bien, ça je vais noter ça. Parce que des fois, je réponds pas parce que je me dis que si je réponds, ils vont encore me réécrire. Oui, non, mais tu peux pas savoir ce que je reçois, moi. Tous les jours.
Moi, je fais ça avec les impôts, ils continuent à m'écrire.
Je vous remercie. Merci, de
ça m'intéresse pas du tout.
C'est quoi que vous avez
votre
dit
votre projet
phrase
merdique, dit, tu vois. Continue, hein, il lâche pas.
C'est quoi la phrase que vous avez dit, Stéphane Corbin?
C'était. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Merci pour votre sollicitation. Hélas, je n'ai pas. Je sais plus ce que j'ai dit. Vous écouterez le podcast.
Je ne vais pas avoir le temps.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, Stéphane Corbin et Virginie Lemoine, venus nous parler du double album des Funambules, 42 titres originaux dont 7 inédits, et qui sera à l'Alhambra du 6 au 9 juin, et tous les bénéfices seront reversés à SOS Homophobie. Et il y a 50 artistes sur scène du 6 au 9 juin à l'Alhambra. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Ben H, François Guédon et nos deux invités, Virginie Lemoine et Stéphane Corbin, venus nous parler de ce spectacle, Les Funambules à l'Alhambra, 4 dates exceptionnelles du 6 au 9 juin. Alors, tout le monde est bénévole puisque les bénéfices sont reversés à SOS Homophobie. Comment on fait, Stéphane Corbin, pour mobiliser? Vous dites, vous faites tous les métiers, vous faites community manager,
secrétaire, comptable, j'achète des bouteilles d'eau, je fais les quatre régisseurs.
Vous êtes aussi insomniaque.
Oui, voilà, la réponse est ça, je dors peu. Ouais. Et d'où l'intérêt du dermatologue, encore une fois. C'est celle qui vient compenser les
Mais
effets.
Vous pensiez que ce serait autant de travail de vous lancer
non,
là-dedans?
On s'est lancé dedans comme ça, sur une volonté. On a tous tellement été heurtés par la violence qu'il y a eu pendant les manifestations en 2013. On s'est lancé dedans comme ça. C'est une espèce de cri, quoi. Il fallait faire quelque chose. On est très nombreux. Il y a plein de gens qui ont fait d'autres choses, d'ailleurs. Mais voilà, moi, je sais faire des chansons. J'ai fait des chansons. Mais on s'est lancé sans avoir l'idée de ce que ça allait donner. Alors, on faisait une chanson en studio. On se disait, oh, c'est vachement bien, on va en faire une autre. On est arrivé à 42 parce que des gens m'ont arrêté. Bon, on sera à 73. Hein,
il y a même votre père, professeur de linguistique, qui écrit des chansons, et votre frère aussi. Toute la famille.
Absolument, toute la famille s'y est mise. Mon père, et c'est très touchant, mon père a notamment écrit la chanson que chante Annie Cordy sur l'album. Ouais. Annie Cordy, qu'il écoutait quand lui-même était petit. Donc ça a bouclé une boucle, c'est magnifique.
Et le nom, Les Funambules, c'est parce qu'être homosexuel, c'est toujours marcher sur un fil aujourd'hui.
C'est ça, c'est l'idée que c'est des vies dans lesquelles.
Être hétéro, c'est pas facile non plus. Hein. On va écouter un extrait de votre album, La fille à pédé.
Nous sommes les filles à pédé, celles qui se moquent des gens qui ont l'esprit étriqué et l'humour inexistant. Les filles à pédé, celles qui roulent du popotin, celles qui aiment s'emballer autour du moindre potin.
C'est une chanson humoristique, mais en même temps, ça reprend aussi des clichés sur l'homosexualité. On ne vous l'a pas reproché, cette chanson?
On nous l'a un peu reproché, mais justement, vous savez, les homos retournent, comme toutes les minorités, retournent les insultes qu'on leur fait pour en faire une force.
C'est de l'autodérision.
C'est de l'autodérision, voilà. Donc c'est exactement une compilation de tous les clichés pour les retourner et en faire une force. Et ceci dit, les filles à pédé, ça existe quand même. Je pense qu'il y en a autour de cette
table.
Ben H a des choses à vous dire, Stéphane Corbin et Virginie Lemoine.
Oui, tout d'abord, Virginie Lemoine, est-ce que vous vous souvenez que vous m'avez déjà vu loin de ce studio? Vous vous souvenez de la toute première fois? C'était dans un festival. Vous étiez présidente de jury. Et vous savez, dans un festival, on remet des prix, tout ça. Et vous, je m'en souviens, vous m'aviez remis aucun prix.
C'était festival aucun... de quoi?
Ah, je me souviens, je crois que c'était les Andaneries, ou je sais plus exactement où c'était, mais en tout cas, je garde ce souvenir ému de honte de vous croiser un petit peu après le soir, etc. Et là, j'ai cette même honte. Mais on n'est pas ce midi-là pour repasser, pour ressasser mes vieux souvenirs de loser, des souvenirs qui ne nous rajeunissent pas, Virginie. Hein, ça remonte à bien 1980, 2017, voilà. Non. Non, si nous sommes ici ce midi, c'est pour parler du spectacle Les Funambules créé par notre invité Stéphane Corbin. Un grand spectacle que n'est pas encore venu voir Christine Boutin. Planning trop chargé, sans doute. Un spectacle placé sous le signe de l'amour. L'amour au sens universel, l'amour de l'autre. Un thème général qui s'ajoute à la thème du planning trop chargé, pour expliquer l'absence de Christine Boutin tout au long des déjà 60 représentations en France, mais aussi au Québec. Un spectacle qui parle d'amour, je disais, des obstacles que l'on peut rencontrer et du chemin pour parvenir à le vivre, tout simplement. Un spectacle qui parle donc à tout le monde, hein, qui ici n'a jamais aimé. Et je dis bien à part son cousin. Un spectacle qui nous embarque en musique et en chanson dans un grand show à l'Alhambra à partir du 6 juin. Et c'est les dernières, hein, je le dis pour Christine Boutin qui écoute Europe 1. Ce serait dommage qu'elle ne vienne pas avec son cousin, elle. Un grand show qui, au-delà de sa noble cause, réalise aussi l'exploit de réunir plusieurs centaines de personnes bénévolement autour d'un même projet. C'est très rare dans le show business. Il y a vous, les enfoirés, les légendaires partout, Fuck Me, I'm Famous, organisé par Léa Landau. Oui, je sais que je vais sans doute recevoir au terme de ce papier des messages qui diront tous « Oui, Benache, dans ta chronique, tu ne précises pas du tout que ce spectacle met en avant outrageusement des pédérastes de mauvaise vie. Vous ne faites pas une présentation honnête du projet. » Alors tout d'abord, merci pour tous vos messages, ma chère Christine. Il est vrai que cette information n'a pas été mentionnée nulle part dans ce papier. En radio, le temps est précieux, je me dois d'aller à l'essentiel. Et dans ce cas-là, l'essentiel, c'est juste l'amour. Merci de m'avoir écouté.
Donc Virginie Lemoine, vous avez aussi beaucoup de projets de mise en scène.
Oui.
Il y a notamment cette pièce Suite française que vous avez adaptée au théâtre qui sera jouée à la rentrée.
Suite française qui sera à la rentrée au théâtre La Bruyère, les deux parties de Suite française. Et puis en Avignon, j'ai eu le bonheur de mettre en scène un texte de Stéphane Corbin, un roman qui a le prix découverte du roman gay, qui s'appelle Nos années parallèles, qui est un hymne à l'amour parfait, c'est-à-dire entre une mère et un fils. C'est un texte magnifique.
Qui sera à quel endroit ?
Extrêmement touchant.
Au Buffon à 16h20.
Voilà. Donc il y a ça.
Il y a un autre texte de David Lelaello que j'ai adapté, que j'ai mis en scène, qui s'appelle Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri.
Oui.
Histoire vraie d'un petit garçon dont la vie a été transfigurée par le.
Et ça se joue quand ?
Comment ?
Ça se joue quand et où ?
Au Festival d'Avignon à 20h45 au Petit Chien. Et puis il y a Chagrin pour soi qui reprend au Festival d'Avignon au Théâtre des Gémeaux à 20h45.
Donc trois spectacles au Festival d'Avignon.
J'en ai quatre. Mais je suis très très heureuse. Et puis donc à la rentrée à Paris au Théâtre La Bruyère, les deux romans de Suite française qui sont adaptés au théâtre. Et je précise que tous mes spectacles, toutes les musiques sont signées Stéphane Corbin. Je vais chercher loin mes compositeurs.
C'est une vraie histoire d'amour.
Merci Virginie Lemoine et Stéphane Corbin d'être passés nous voir. On rappelle Les Funambules qui sera à l'Alhambra pour 4 dates du 6 au 9 juin. Tous les bénéfices seront reversés à SOS Homophobie. Et puis le double album des Funambules, 42 titres originaux qu'on peut télécharger sur toutes les plateformes. Merci à vous et puis vous serez à Avignon. Donc Les Funambules du 5 au 27 juillet au théâtre La Luna à Paris.
Avignon.
Voilà. Et Virginie Lemoine est dans 4 spectacles à Avignon. Redites vite les salles, Virginie.
Le Buffon, le Balcon, le Théâtre des Gémeaux, le Petit Chien. Voilà.
Très bien. Et bien parfait. Merci à vous d'être passé nous voir. Dans quelques instants, c'est Jean-Marie Roy qui sera notre invité.
11h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Ben H, François Guédon. Et notre invité qui est aujourd'hui écrivain, journaliste. Sa plume lui a valu le prix Renaudot en 1983 et depuis 1997, il est membre de l'Académie française. Il est connu pour sa plume, mais aussi pour sa curiosité, son humour et son franc-parler. Aujourd'hui, il vient nous présenter le dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. L'érudit et plein d'esprit écrivain Jean-Marie Roy est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean-Marie Roy.
Bonjour.
Alors c'est ce dictionnaire qui est amoureux de Jean d'Ormesson ou est-ce que c'est vous ?
Alors les deux. Oui. Les deux, je dois dire que, vous savez, quand on admire quelqu'un, il y a toujours un peu d'amour. Et d'ailleurs l'amour c'est très, très, très large. C'est une forme de générosité, surtout lorsque on aime quelqu'un, non seulement pour ce qu'il est, ce qui était le cas pour Jean d'Ormesson, qui était une personnalité vraiment pleine d'esprit, mais aussi pour ce qu'il véhiculait, c'est-à-dire, ce qui est ma passion aussi, on se rejoignait pour l'amour de la littérature.
Vous dites que Jean d'Ormesson a été très important pour vous, il a été comme un phare. Vous dites que vous l'avez rencontré à 18 ans, et en parlant de vous, Jean-Marie Roy, vous dites que la plupart des gens pensent que j'ai des débuts faciles du fait de ma filiation bourgeoise. En réalité, j'étais pauvre, nulle en classe, terriblement timide et complexée. J'étais amoureux d'une jeune femme qui me trompait avec des crétins. J'avais des rêves au-dessus de mes moyens et des idées suicidaires. Un jour, Jean d'Ormesson est apparu dans ma vie. Il avait tout ce que je n'avais pas. Dans le brouillard de mes handicaps moraux, il a été mon phare, mon espérance perpétuelle.
C'est vrai.
Quand vous l'avez connu, vous aviez 18 ans, il avait quel âge ?
Il avait 18 ans de plus, donc il devait avoir 35 ans.
C'est pas banal une amitié comme ça qui dure toute une vie entre des gens. Il avait le double de votre âge quand même.
C'est deux générations.
Vous savez, il y a beaucoup de photos où on le voit torse nu en Corse, en se prenant par la taille. Alors il y a des gens qui m'ont dit, mais est-ce que vous n'étiez pas un peu...
Ensemble.
Vous voyez ce que je veux dire ?
À voile et à vapeur. Alors...
Eh bien, je peux vous avouer
que oui, que nous n'avons
jamais couché ensemble. Et un jour... Nous étions,
nous étions en Corse.
Non, c'est pas du tout son genre, les partouzes. Ni le mien, d'ailleurs. Déjà, en tête à tête, c'est difficile, mais alors à plusieurs...
Ça, je suis d'accord.
Hein, alors, nous étions en Corse, et il lisait le Figaro Magazine, et dans le Figaro Magazine, il y avait un article qui disait que Aragon et Drieu-La Rochelle, un soir, avaient couché ensemble. Alors, il pose le journal et il me dit, Jean-Marie, tu crois que dans 50 ans... Les gens diront qu'on a couché ensemble. Je dis, mais Jean, on le dit déjà. Comment on le dit déjà?
C'était votre meilleur ami, Jean d'Ormesson? Jean-Marie Roy?
Oui, j'ai eu plusieurs amis merveilleux. J'ai eu Philippe Tesson aussi, d'ailleurs, qui d'ailleurs, ils ne s'entendaient pas tous les deux.
Est-ce que vous avez couché avec Philippe Tesson?
Est-ce qu'ils étaient jaloux l'un de l'autre?
Oui. Je ne sais pas. Non, mais il y avait quelque chose de très drôle. Il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu d'ailleurs la période où je me suis brouillé avec Jean d'Ormesson à cause du Figaro.
Oui.
Parce que moi, je vais peut-être vous surprendre, mais j'étais un peu gauchiste.
Ah bon?
Je suis surpris, Jean-Marie Roy. Voilà, effectivement, je suis très surpris.
En tout cas,
Jean-Marie, vous étiez gauchiste. Mais quand ça? Quand est-ce?
Pois, un gueux.
On a du mal à imaginer un homme gauche.
Je vais vous prendre une
référence. Vous avez l'air tellement distingué, Jean-Marie Roy.
Vous seriez venu en survêt, on vous aurait pas embêté.
Mais il y a une phrase que j'adore qui est de Balzac. Il dit, sur sa position politique, « J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie. » Voilà, ben, c'est ma position. Je défends les gens malheureux et je défends la vie.
Et alors Emmanuel Macron, vous le défendez alors?
Pour l'instant, il n'est pas trop malheureux aujourd'hui. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Si vous voulez...
Vous dites que vous l'avez rencontré, Emmanuel Macron, qui vous a même demandé des conseils? Est-ce qu'il les a écoutés? Ben si, vous dites que
non,
vous l'avez rencontré au moment de sa campagne.
Je l'ai vu, je peux vous raconter. J'ai vu, parce qu'il habitait à côté de chez moi.
Vous étiez aussi en skipper.
J'étais entre Fillon, qui habitait à 100 mètres, et Macron, qui habitait de l'autre côté. Et un jour, je le vois dans la rue, et je signe très courtoisement, et il vient vers moi, il me prend la main, et il plonge ses yeux bleus dans les miens, et je lui dis, bien sûr, c'était normal, un peu flagordeur, je lui dis, il n'était pas encore président, je lui dis, vraiment, tout vous réussit, vous avez de grandes qualités, mais quand même...
Vous avez un côté courtisan, Jean-Marie.
Bien élevé, alors, il ne faut pas exagérer, courtisan, non.
Vous dites, tout vous réussit.
Et je lui dis, tout vous réussit, ce qui était vrai à ce moment-là, et il me dit, taisez-vous, j'ai peur que le système n'explose. Et c'est ce qui est un peu arrivé par la suite. Il avait donc pressenti que finalement ce succès futur serait accompagné de grandes difficultés.
Vous avez dit Emmanuel Macron est un chef d'État d'un grand calibre. Vous le pensez toujours, Jean-Marie Roy?
Je pense qu'il est un chef d'État avec une très grande intelligence. Mais est-ce que l'intelligence suffit pour être un grand chef d'État?
Et donc, vous lui conseillerez quoi, Emmanuel Macron, Jean-Marie Roy?
Je lui conseillerais de rencontrer plus souvent des gens un peu populaires comme moi.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Marie Roy, l'académicien, venu nous parler de ce dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. Un dictionnaire pétillant et plein d'humour consacré à ce personnage qu'il était tout autant, qui vient de sortir aux éditions Plomb. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau-Ménage, François Guédon et notre invité, l'académicien Jean-Marie Roir, venu nous parler de son dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. Alors, un dictionnaire amoureux d'Anne Romanoff, ça ne vous tentait pas? Parce qu'au cas où, j'ai déjà rédigé ma définition. Anne Romanoff, humoriste majeure des 20e et 21e siècles, au charme et au charisme incroyable, à la beauté, au talent incontestable. Voilà, je trouve que c'est bref, précis, objectif.
Objectif.
On peut participer, nous aussi.
J'y pense intensément, mais je ne voulais pas avoir l'air flagorneur en vous le disant comme ça, tout à trac. Mais non, j'y pense.
Mais il ferait combien de pages, celui-là?
Celui-là, bah, écoutez, le double.
Au sujet de ce livre, l'éditeur a écrit « Personne n'a éprouvé comme lui une curiosité plus avide sur l'homme, son origine, son avenir, tout en ayant une aussi grande conscience de l'impermanence des choses et du caractère éphémère de la vie. » Arriver à caser le mot « impermanence », c'était un pari avec l'éditeur?
Non, mais vous savez, pour le définir, j'ai pris une phrase de Shakespeare qui est « l'éternité plus un jour ». C'est-à-dire qu'il était passionné par le Big Bang, par l'origine de l'homme, l'origine des sociétés. C'était vraiment sa préoccupation majeure. Hein. Et en même temps, il était dans l'instant. Il adorait...
C'était un épicurien.
Très sensuel, très épicurien. Et tous les bonheurs de la vie, c'est quelqu'un qui... Et il avait cette chance d'être très peu chrétien. Moi, je suis un peu chrétien, c'est dans la culpabilité, dans l'angoisse. Comme je disais, j'ai mal chez les autres. Lui, il trouvait la société parfaite. Il trouvait qu'il y avait des injustices. Mais c'est pas grave, il était du côté du bon côté des choses. Donc, c'était pas du tout un homme...
Il n'avait pas une conscience sociale.
Qui souffrait. Ah non, pas du tout une conscience sociale. Mais même pas de conscience du mal. Par exemple, avec ses copains... Ben, il leur piquait leur nana sans aucun scrupule. Avec moi, par exemple. Avec moi, je peux vous dire qu'il a essayé de me piquer toutes mes nanas.
C'est vrai?
Bon, oui.
Alors, au début, je me suis dit... Vous avez plus de mal, vous, en plus?
Pardon?
Vous aviez plus de mal?
Pardon?
C'est enfin... gentil, ça, vraiment. Vous allez voir le dictionnaire que je vais faire sur vous. Je vais me venger. Mais je vais vous donner un exemple. Et tout à fait au début de la relation, j'étais venu encore chez lui avec une amie qui était vraiment ravissante. Ils étaient prendre des risques avec lui. Et j'avais une chambre à côté de la sienne. Et un matin, mon ami était parti se baigner. Et je restais seul dans la chambre, un peu mes cheveux paraissaient. Et tout d'un coup, il arrive, il voit une touffe de cheveux sous les draps. Il s'approche, il soulève le drap et je vois ses yeux à 10 cm de mes yeux, sa bouche qui allait vraiment, qui allait dangereusement vers la mienne. Et il me dit « Ah, c'est toi !» Et il s'en va. Et j'étais très embêté. Arrive le déjeuner, je me dis « Qu'est-ce que je vais faire vis-à-vis de son épouse ?» Et arrive le déjeuner et d'un seul coup, c'est lui qui évoque la scène. Et il dit « Vous savez ce qui m'était arrivé ce matin ?» Je suis allé dans la chambre de Jean-Marie et j'espérais que la jeune fille serait seule. Je m'approche pour l'embrasser, je tire le drap et qu'est-ce que je vois? La sale gueule de Jean-Marie. Alors, je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ou bien je lui casse la gueule, mais à ce moment-là, si je lui avais cassé la gueule, il n'y aurait plus d'amitié, il n'y aurait pas eu de livre, bien entendu. Donc je me suis dit, je vais faire une chose qu'il faut vraiment, qui est très très risquée. Mais une chose dans la vie très très risquée, mais enfin, quelquefois on n'a pas le choix. Je vais faire confiance aux femmes. Ça, c'est très, très risqué.
Et donc ?
Et donc, j'ai fait confiance aux femmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais enfin, j'ai l'impression que finalement, elles ont... Parce que, contrairement à ce que vous pensez, j'avais quelques charmes aussi.
Oui, non, mais je ne dis pas. Mais lui, c'est vrai qu'avec ses beaux yeux bleus, oui. Et son... il était irrésistible, Jean d'Ormesson.
Il était irrésistible, mais bah, vous savez, en ce qui me concerne, je ne veux pas dire que je suis irrésistible. Mais disons, il y avait un match.
Voilà. Vous êtes plus irrésistible avec la langue, vous. Je veux dire...
Ah d'accord.
Ah non, vous avez des détails.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Marie Roir, venu nous parler de son dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson qui vient de sortir aux éditions Plomb.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau-Ménage, François Guédon et notre invité, l'académicien Jean-Marie Roir. Vous nous parlez de son dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson qui vient de sortir aux éditions Plomb. Vous dites de Jean d'Ormesson, on l'aimait parce qu'il représentait toutes les qualités qui ont constitué un pays exceptionnel, qui a su allier l'élégance de la pensée, la légèreté amusante, l'humour et la tolérance. Il avait aussi réussi cette gageure de réunir dans sa personne les anciens parfums fanés de l'aristocratie et la méritocratie républicaine. Jean aimait les plaisirs de la société qui apporte à l'existence son raffinement, ses parfums, l'élégance des jolies femmes et gomme un peu de la brutalité de la bête humaine.
Ah oui, c'est parfait. Hein.
C'est très bien écrit.
Qu'est-ce qu'on peut dire de c'est plus
bon. On comprend que non, vous êtes académicien, mais...
Non, mais je crois qu'en effet, les Français, tout au long de leur histoire, ont aimé se retrouver chez un grand écrivain. Je crois que les Français, qui passent leur temps à s'engueuler sur le plan politique, ils ont un surmoi qui les amène à se réconcilier sur le plan littéraire. La littérature transporte quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même. Elle transporte un idéal, la beauté, la vérité et la beauté.
Jean-Marie Roy, parlons un peu de vous. Oui. Vous êtes un besogneux.
Oui, merci. Ça commence bien.
Vous avez mis 5 ans. Non, mais c'est vrai, ça donne du courage à tout le monde. Votre oui. parcours, vous avez mis 5 ans pour décrocher le bac. Votre premier manuscrit à 20 ans a été refusé par 13 éditeurs. Et vous avez été battu 4 fois à l'Académie française avant d'être enfin admis en 97. Donc comme, vous ne lâchez pas l'affaire.
Comme Victor Hugo. Oui. Victor Hugo aussi s'était présenté 5 fois.
Donc vous ne lâchez pas l'affaire non, quand vous voulez
oui,
quelque chose.
Je crois, Bernard Pivot un jour m'a adressé une dédicace en me disant Jean-Marie Roy avec un T comme ténacité. C'est vrai que je suis assez tenace. Et au fond, le bac, je tenais à l'avoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je n'ai pas eu mon bac. Hein, mais je l'ai eu. Difficilement.
Fois, vous avez courage dans la
ça
vie.
M'a permis d'avoir des
vous
bases très solides.
Vous aviez quel
bases.
Âge
Oh, je ne veux pas 35 ans. Ouais.
22, 23.
Juste avant l'Académie. Et mon premier roman, en effet, a été refusé par 13 éditeurs. Il ne faut pas voir la vie artistique d'après le succès. Vous avez de la chance, vous avez un succès fou, tout le monde vous adore. Mais la vie artistique, cette vie artistique littéraire, ou la peinture, moi je suis une famille de peintres, c'est toujours la difficulté, c'est toujours l'échec, c'est toujours le sentiment de l'échec, même quand ça marche.
François Guédon a des choses à vous dire, Jean-Marie Roy.
Alors, monsieur Jean-Marie Roy, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que c'est que de vous recevoir aujourd'hui. À inviter un académicien, c'est l'assurance d'augmenter significativement les niveaux de culture autour de cette table. Hein, sachez-le, il y a des chroniqueurs autour de cette table, et je tairai leur nom d'ailleurs, dont la dernière lecture, c'était Tchoupi à la plage en 96. Alors, comment expliquer, hein, monsieur Roy, aux jeunes générations qui nous écoutent, le rôle d'un académicien? Eh bien, les académiciens, ce sont les gardiens du temple de la langue française. Et quelque part, vous êtes le Hugo Loris de la grammaire, vous êtes le Iron Man de la syntaxe, vous êtes le Yannick Jadot de la conjugaison. Et je suis d'ailleurs assez surpris que l'Académie n'ait pas présenté une liste aux européennes. Non, mais c'est vrai, je pense personnellement que le panda roux est autant menacé d'extinction que l'accord du participe passé avec l'auxiliaire à voir. Alors, en cette période de marasme langagier, hein, je ne désespère pas, hein, il y a encore des poètes. Et j'aimerais d'ailleurs profiter de votre présence pour avoir votre avis sur un texte qui résiste encore et toujours à mon analyse. Alors, ce texte mystérieux, on le doit à la poétesse moderne Aya Nakamura. Et je vous propose de l'écouter. Oh, dja, dja, oh, y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja, genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Alors, si vous ne l'avez pas bien saisi à la première écoute, monsieur Roy, hein, je vous le répète, je cite « Oh, Dja-Dja, il n'y a pas moyen, Dja-Dja, je suis pas ta catin, Dja-Dja, genre en mode Katchana Baby, tu dettes ça. » Quel est l'avis de l'académicien sur ce texte puissant?
Eh bien, je trouve que c'est assez euphonique. Parce que vous savez, en matière de littérature, il n'y a pas que la compréhension, il y a quelquefois... Il y a certains poèmes de Mallarmé qui sont difficilement compréhensibles, mais la musique est magnifique. Donc là, je trouve qu'il y a une musique, il y a un rythme. Et après tout, la chanson veut vous frapper par sa sonorité, par sa mélodie. Là, je pense que ça a une valeur. J'en sais rien, il faudrait que je l'écoute encore plusieurs fois.
Mais... Ben on vous la remet.
C'est sûrement par sa mélodie. C'est pas du Proust, certainement.
Et c'est un petit peu la réflexion que je me faisais. Hein. Doit-on pousser des cris d'orfraie si la hesse remplace le malheur, si le kiff remplace la passion, si le seum remplace le désespoir? Eh bien, personnellement, je suis de votre avis, je pense qu'il n'en est rien. Et je pousserai le parjure par l'exemple en parodiant Verlaine et vous disant... Je fais souvent ce dream un peu ouf et chelou d'une go pas follow qui me kiffe et que je kiffe et qui n'est mon rouilla, ni tout à fait la mif, ni tout à fait une chouin, mais qui kiffe son babtou. Merci, monsieur Roy.
On peut quand même entendre l'original de Verlaine, s'il te plaît. S'il te plaît, l'original.
Il ne le connaît pas.
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend.
Voilà. C'est plus beau quand même. Europe 1. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la dernière partie de cette émission avec Ben H, François Guédon, Jean-Philippe Bizini, Léa Landau et notre invité, l'écrivain académicien Jean-Marie Roir, veut nous parler de son dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, paru aux éditions Plomb.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Bizini, Léa Landau, Ben H, François Guédon, notre invité, l'académicien Jean-Marie Roir, veut nous parler de son dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson aux éditions Plomb. Donc c'est vraiment l'histoire aussi, vous et Jean d'Ormesson, d'une très longue amitié qui a commencé à l'âge de 18 ans, qui s'est arrêtée à sa mort avec juste une interruption de 3 ans.
Oui, au moment où on s'est brouillé.
Oui. Pourquoi ?
On s'est brouillé au Figaro parce qu'il était directeur du Figaro. Non, c'est pas à cause d'une femme, non, mais.
C'était pour le pognon.
J'avais renoncé. Avec les femmes, j'avais renoncé.
Vous aviez peur quand vous aviez une nouvelle amie de la présenter à Jean d'Ormesson ?
Ah non, j'avais pas peur. Je savais très bien que c'était le risque que je prenais.
Mais vous le disiez à la femme avant de lui présenter Jean d'Ormesson ?
Non. Non, j'ai toujours fait confiance aux femmes. Et ça, c'est pour ça que je suis dans l'état où je suis et que je ne me suis jamais marié.
Alors, vous avez été chargé du coup de rédiger un hommage à Jean d'Ormesson le jour de son enterrement. Ça a été très difficile, j'imagine, pour vous.
Il y a plus amusant. Hein.
Vous aviez peur de pleurer.
Oui, c'est vrai.
Et vous dites que vous avez regardé sur Internet comment ne pas pleurer.
Comment
ne pas pleurer lors d'un enterrement. Vous avez tapé ça sur Google, Jean-Marie Roy.
C'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez
trouvé ? Parce que j'avais un ami qui était mort 6 mois ou pas avant, qui était Gonzague Saint-Brice. Et on m'avait demandé là aussi de faire l'éloge funèbre. C'est l'ennui d'être à l'académie, vous voyez, maintenant. On devient quelqu'un d'officiel. Et quand j'ai prononcé cet éloge de Gonzague Saint-Brice, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, bon, je ne vais pas recommencer, il y aura 3 présidents de la République, il faut que je trouve un moyen pour ne pas pleurer. Et alors j'ai regardé, j'en ai fait sur Internet, et on a dit, il faut se serrer très très fort une partie sensible de votre individu.
Se pincer.
Et voilà, se pincer. Et je me suis dit, ben, c'est ce que je vais faire, je vais me pincer si jamais je me vois, les larmes arrivent. Et puis finalement, j'ai réussi à ne pas pleurer.
Vous parlez aussi de la bonne éducation dans ce livre de Jean d'Ormesson. Vous racontez que le jour de la mort de sa mère, il était en public avec des gens et il ne montrait rien, alors que vous, qui le connaissiez bien, vous saviez qu'il souffrait atrocement et qu'il n'aimait jamais parler des choses finalement. Il était secret finalement, oui. Jean d'Ormesson, sous une apparence exubérante.
Non, je crois que c'était, et c'est ce qui était vraiment extraordinaire chez lui, c'était sa courtoisie et sa bonne éducation. Et ne pas montrer, et ça c'est le côté des aristocrates, hein, c'est vous montrer, ne pas montrer ses sentiments, ne pas montrer ses émotions. Et le jour de la mort de sa mère, en effet, j'étais étonné parce qu'il devait donner une conférence. Il est allé à cette conférence, il souriait, il était là, et les gens étaient sidérés de voir à quel point il savait se maîtriser. Et en cela, ça a été pour moi un grand professeur de vie. Très souvent, je me dis encore d'ailleurs, comment agirait-il ? Il savait parfaitement, il avait un tact extraordinaire dans la vie qui donnait l'impression qu'il aimait tout le monde, qu'il était très bienveillant envers tout le monde. C'est vrai qu'on a l'impression que c'était l'ami de tout le monde, mais en fait, c'était l'ami de personne.
C'était votre ami.
Oui, mais quelquefois même, quand j'étais en vacances avec lui, je dis tiens, je vais aller le voir, je vais parler. Et je voyais très bien, il avait comme sur sa poitrine comme un écriteau « Do not disturb ». Il ne faut pas être dérangé, il ne faut pas être emmerdé. C'était un homme finalement beaucoup plus seul, comme sont tous les grands artistes.
Ah oui, j'en sais. Léa Nando a des choses à vous dire, Jean-Marie Roy.
Oui, Jean-Marie Roy, ouais, ça c'est sûr. On connaît désormais tous le guide du routard. Alors moi, j'ai préféré inventer le guide du roi, histoire de connaître de manière plus intime l'homme plutôt que l'académicien que vous êtes. Il n'y a plus qu'à remplir les trous, donc je compte sur vous pour m'aider. Alors l'endroit où vous aimez aller vous ressourcer, Jean-Marie Roy ?
Venise.
Seul ?
Parce qu'elle a des vacances.
Un homme d'église n'est jamais seul.
Ah, l'endroit idéal pour réussir un premier encart, Jean-Marie Roy.
Alors, l'endroit pour réussir un premier encart, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est pas l'académie.
Alors, vous qui n'êtes pas encore marié, ça va venir. À votre avis, l'endroit idéal pour faire une demande en mariage, Jean-Marie Roy.
Venise.
Aussi. Ok. L'endroit idéal pour une soirée bonne bouffe, bonne bouteille entre amis.
Alors là encore pas l'académie parce qu'on n'a pas, on peut pas, il y a pas de restaurant, mais bel endroit. Attendez, je vais chercher un restaurant chez les Anges où je vais aller tout à l'heure.
Ah oui, où ça ?
C'est
où ?
C'est boulevard d'Athion-Beaubourg à Paris.
Avec qui ?
Avec une dame.
Oh ! D'accord. L'endroit
avec une jeune femme. Il appelle tous
l'endroit idéal pour déprimer seul sans que personne ne vous enquiquine, Jean-Marie Roy.
pour déprimer seul, bah écoutez, je déprime déjà suffisamment en permanence. Vraiment, alors cherche pas des endroits, parce que alors là, je peux aller n'importe où. Ça me suffit pour déprimer, puisque je me mets à penser à mon prochain livre ou à mes anciens livres en me disant vraiment, j'aimerais tellement être un génie, avoir le succès d'Anne Romanoff, enfin voilà, avoir des fans qui vous applaudissent, des gens qui vous rencontrent dans la rue. Alors, dans la rue, il y a une histoire aussi avec Jean d'Ormesson. Parce qu'à un moment, je me suis dit, un jour, il me raconte une histoire, je me dis, ça y est, il s'est pris au sérieux. Parce que ça, c'est le danger. C'est les gens qui se prennent au sérieux, c'est comme s'ils étaient morts. Enfin, c'est frère. Et il me dit, j'étais dans la rue et je vois une dame qui me fait un grand sourire et qui s'approche de moi et je mets ma main dans ma poche pour prendre un stylo. Bien entendu, vous connaissez ça, hein, non, madame. Et qui s'approche de moi et c'est une dame qui vient et qui me dit, ah, monsieur, si vous saviez comme je vous admire. Bien sûr, je suis marié, j'ai un mari charmant, mais vous, c'est autre chose, c'est de la passion. J'ai pour vous à la fois une admiration aussi, mon malheureux mari. Il lui arrivait malheur, ben ça serait vraiment avec vous, j'aimerais vivre. Jean d'Ormesson qui prend son air faussement modeste, donc il était génial. Et commence à prendre un morceau de papier, il fait une trace, donc c'est l'autographe. Et elle le regarde, elle dit « Oh merci, merci monsieur de Funès
ah, !» C'est génial.
L'histoire de la semaine.
Nous avons une tradition dans cette émission, Jean-Marie Loire. Chaque lundi, nous démarrons une histoire, donc avec un mot pioché au hasard dans ce chapeau. Donc à vous, l'honneur de démarrer cette histoire.
Amoureux.
Ah, ah,
ça, c'est bien.
Alors vous allez nous démarrer une belle histoire d'amour en deux phrases et ce sera aux invités de la semaine de la poursuivre.
Alors, j'étais amoureux. Ce n'était pas la première fois, ni la dernière, j'espère.
Merci Jean-Marie Roire d'être passé nous voir. On recommande ce très joli livre, le dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, qui vient de sortir aux éditions Plomb. Merci à vous.
Merci.
Je vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.